Au Poste est en libre accès et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur auposte.fr.
Amis du café, amis de la police, amis de la liberté, amis des enquêtes journalistiques, amis des images, amis des arrêts sur image, nous sommes avec Nassira El Mouadem. Bonjour.
Bonjour David et bonjour à tout le monde.
Comment ça va ?
Ça va comme quelqu'un qui s'est fait contrôler pour la première fois par la police hier dans la journée. Donc je ne sais pas si c'est un signe par rapport à ma convocation d'aujourd'hui, mais ça donne le ton, voilà.
Non, les services sont très compartimentés.
D'accord, très bien.
Non, le ministère est généreux, il est vaste, il est large.
Très bien. Mais voilà, rassuré alors.
Les fichiers ne sont pas recoupés, non. Voilà, bonjour Nassira. Quelle joie de cette rencontre avec la courageuse et brillante Nassira El Mouadem.
Oh, bah, j'ai bien fait de me lever. Merci beaucoup.
Ouais, il y a pas mal de gens qui disent que t'es courageuse.
Ah ouais, bah, je sais pas. Je trouve que d'abord, j'ai beaucoup de chance de faire le métier que je fais. Parce que malheureusement, on est beaucoup à vouloir le faire avec de bonnes conditions de travail et c'est difficile. Donc tous les jours, je me dis que ça peut s'arrêter. Et puis ça peut s'arrêter parce que bah, on sait que l'extrême droite est à quelques mois d'arriver au pouvoir dans ce pays. Et je sais que tout ça aussi peut s'arrêter parce que je peux aussi être renvoyée à des horizons inconnus.
Tu veux dire quoi là par
bah, je sais pas, la remigration par exemple, ce genre de choses.
Non, mais toi, tu viens de Romorantin.
Ah oui, mais dites-le aux aficionados de l'extrême droite qui n'ont pas très bien compris qu'il y a des gens qui sont nés dans ce pays et qui peuvent avoir aussi différentes origines. Donc je suis assez inquiète par le contexte politique, même très inquiète, mais d'abord aussi privilégiée de pouvoir faire ce travail tous les jours.
Le privilège, c'est passer 6 ans de sa vie, tranquillos, à enquêter, tranquillos.
Je sais pas.
Dans une ville de banlieue qui s'appelle le Blanc-Mesnil, surnommé le Béton-Mesnil dans les pages. Regardez comme il est épais ce bouquin. Une commune où les habitants te disaient à voix basse des choses pas normales se passent. Ouais. Nassira, tu es donc journaliste à Arrêt sur Image, mais surtout, tu es ancienne directrice du Bondy Blog, qui est cher à notre cœur. Tu publies donc chez Stock « Main basse sur la ville », 504 pages sur la transformation du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis depuis la prise de pouvoir d'un dénommé Thierry Ménien, que je découvre avec toi. Ouais, honnêtement, je le découvre.
D'accord.
Je termine ma petite présentation. Je fais mon Schneiderman. Ce que tu documentes, clientélisme, lien avéré avec l'extrême droite, destruction du tissu associatif, harcèlement d'agents municipaux poussé jusqu'au suicide, on va y revenir, subvention de 20 000 euros accordée à une association de Sarah Knafo, on va y revenir, dont l'argent est une drôle d'association, on va y revenir, dont l'argent aurait pu servir à financer la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Le maire officiel ne gouverne plus, celui qui gouverne n'est plus officiellement maire et les habitants qui gênent partent ou se taisent. Tu dis que ce n'est pas une exception, tu dis que le Blanc-Mesnil, ça pourrait arriver partout. C'est-à-dire une extrême droite silencieuse. Je fais mon chenier, c'est-à-dire que je vais faire toute l'émission.
Bon, ben bonjour tout le monde et salut.
Allez, à toi de jouer, bien sûr.
Dans la je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation, David. Oui, je pense qu'au-delà du fait que ça peut arriver partout, ça arrive déjà partout. Hier, j'étais à Duny, qui est une petite commune de 12 000 habitants en Seine-Saint-Denis, une des communes presque rurales de la Seine-Saint-Denis. Et je discutais avec les habitants pour une rencontre sur le livre et effectivement, on me raconte exactement la même chose. Donc c'est quoi en fait le système ? Le système, c'est quelqu'un qui arrive au pouvoir, qui est à droite, qui prend le pouvoir en 2014, qui est élu en 2014 à très peu de voix de près et qui depuis en fait règne en roitelet dans son royaume. Considère que la ville lui appartient, alors même qu'il n'y vit pas, je vous le donne en mille, ce monsieur vit dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà. Non pas au Blanc-Mesnil.
Tout près de la place de l'Étoile, dis-tu.
Exactement, auprès des ambassades étrangères. Enfin voilà, peut-être un des quartiers les plus riches et les plus chics de Paris. Et oui, c'est un système qui se retrouve un peu partout, c'est-à-dire une mainmise très forte sur la ville. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on cadenasse tout, on verrouille tout. Et surtout, le système, c'est vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Et si vous êtes contre moi, on vous rend la vie dure, au point où on vous écrase et vous êtes mis de côté, ou vous n'avez pas d'autre choix, effectivement, que de partir. Donc, c'est un système qui est quand même valable dans plein d'endroits. Je pense qu'il y a plein de gens qui vivent dans des communes qui doivent y s'y retrouver. La différence ici, c'est que tout est excessif, au point où, effectivement, il y a une violence qui s'opère et qui va pousser ce cadre de la ville dont tu parles, Philippe Poingmang, à se défenestrer de son 14e étage un dimanche 26 octobre 2014, 6 mois après l'arrivée au pouvoir de cette nouvelle majorité.
Alors, c'est le point de départ de ton enquête, c'est ce suicide. Et l'enquête et les rebondissements autour de cette enquête, ce qu'on peut dire aujourd'hui sans divulgâcher la fin de ton enquête, c'est que ce suicide, bien que survenu en 2014, est toujours dans l'actualité judiciaire. On va dire ça comme ça, sans rentrer trop dans les détails, pour laisser le plaisir aux lecteurs et aux lectrices de découvrir, enfin le plaisir, en tout cas de découvrir ce qui se passe, parce que régulièrement, tu reviens sur le chemin de croix de la famille de ce monsieur qui s'est suicidé. Mais alors attends, je fais mon Schneiderman.
Ouais.
Pourquoi une histoire de Clochemerle pourrait intéresser tout le monde? Pourquoi le Blanc-Mesnil plutôt qu'une autre ville?
Alors, moi d'abord, je m'intéresse à la Seine-Saint-Denis depuis une quinzaine d'années. Alors, comme tu le disais, moi je viens de Romorantin, en Sologne. C'est pas mon département d'origine, je n'y ai pas vécu. Mais en revanche, je m'y suis attachée parce que j'ai toujours trouvé extrêmement problématique le décalage entre la réalité de ce département, la réalité des communes de Seine-Saint-Denis et l'image médiatique qui est renvoyée. En fait, je ne comprends pas de quoi on me parle quand on me parle de la Seine-Saint-Denis à la télé et à la radio. Et je me suis attachée aux gens parce que les gens ont plein d'histoires à raconter, puis c'est des gens desquels je me sens proche, d'origine immigrée, populaire, etc. Et puis, en fait, en 2020, moi, je suis au Blanc-Mesnil parce que je m'intéresse à la question de l'impact du Covid sur les quartiers et les habitants des quartiers populaires. Et il s'avère que je vais au Blanc-Mesnil dans ce cadre-là, dans le cadre de reportages que je mène, et là, on me parle de tout sauf du Covid. Et on me parle surtout de la manière dont ils sont traités par cette nouvelle municipalité. Et en fait, j'ai comme une pelote de laine quoi, que je déroule, et ça s'arrête jamais. Et donc, j'ai des témoignages à foison, et puis on me donne accès à des documents, à des genres enregistrements, je vais avoir accès à un certain nombre d'archives, et on me raconte effectivement l'histoire de ce cadre, Philippe Poingmang. Et en fait, pour quelle raison je m'intéresse au Blanc-Mesnil et pour quelle raison je continue à tirer le fil, c'est qu'en fait, la mémoire de ce cadre de la ville est salie par la municipalité. On salit sa mémoire. On va mentir sur les raisons qui auraient poussé ce cadre à se suicider. Et en fait, je suis indignée. Je suis indignée et même un peu touchée quelque part en me disant mais comment on peut aller à ce point salir la mémoire de quelqu'un qui vient de mourir? Et je me rapproche de la famille, je me rapproche des amis, et au fur et à mesure, je me rends compte que cette histoire-là est étouffée. Étouffée par la municipalité, et en lisant le livre, vous allez comprendre pour quelles raisons tout ça est étouffé. Et c'est ça qui me donne envie d'en faire le fil conducteur du livre, et aussi, pourquoi le Blanc-Mesnil? Parce qu'encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est toujours... en fait, quand on parle de la Seine-Saint-Denis, quand on parle des problèmes de la Seine-Saint-Denis, très rarement, on va aller mettre le micro sous la bouche des responsables politiques. On va régulièrement aller voir les habitants. On va aller faire des micro-trottoirs devant le quartier, etc. machin. Et on va poser des questions et on va presque demander des comptes aux habitants. Enfin, on ne ferait jamais ça partout ailleurs. Et on ne fait jamais ça partout ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? La mécanique médiatique voudrait qu'on aille voir les élus. Les édiles, les responsables, ceux qui ont des mandats. Et on le fait pas en Seine-Saint-Denis. Et donc moi, je renverse quelque part cette mécanique-là en allant demander des comptes aux élus, aux politiques, en leur demandant... Alors, c'est un grand échec parce que personne ne parle. Et donc, du coup, je le fais par d'autres biais, en se demandant comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Comment ça se fait qu'il y a autant d'opacité? Comment ça se fait qu'il y a autant de violence au sein de cette ville? Et c'est donc les 504 pages du livre.
Il y a une actualité du Blanc-Mesnil, une double actualité. D'abord, cette ville dont on parle, figurez-vous qu'il y a un gars qui en connaît l'importance, il s'appelle Bruno Retailleux, puisque le 5 mars dernier, il était au Blanc-Mesnil, pour dénoncer, je cite, les accords de la honte entre LFI et le reste de la gauche. Et il était justement reçu par celui qui fait l'objet, en tout cas une partie de ceux qui font l'objet de ton livre. Donc c'est dire quand même l'enjeu du Blanc-Mesnil. Ouais. On va revenir évidemment sur l'histoire. Je voudrais terminer sur l'actualité, mais l'histoire, c'est que le Blanc-Mesnil était aussi, tu parlais de fief tout à l'heure, c'était un fief communiste.
Tout à fait.
Ça fait partie, et il va falloir
presque évidemment... Presque 90 ans, ouais.
Voilà. Et c'est... donc, j'ai du mal à prononcer le nom du gars là.
Thierry Ménien.
Thierry Ménien, voilà. C'est Thierry Ménien qui va renverser...
En 2014, ouais.
En 2014, les cocos, adieu les cocos, la mairie est à nous, rentrez chez vous. Ça, c'est les huées sous lesquels part l'ancien maire communiste quand arrive au pouvoir celui
ça,
qui...
C'est important ce point-là, David, si je peux me permettre, parce que on a quand même l'habitude de croire que la Seine-Saint-Denis, globalement, c'est la gauche. Alors certes, le conseil départemental est à gauche, enfin il est socialiste. En revanche, la majorité des communes
voilà
aujourd'hui de la
comment
Seine-Saint-Denis...
comment on réveille le chat. Gauche, socialiste. Alors là,
la majeure partie des communes de la Seine-Saint-Denis sont aujourd'hui à droite. C'est hyper important à avoir en tête, et c'est la raison pour laquelle Bruno Retailleau, évidemment, vient au Blanc-Mesnil, parce qu'il vient dans une ville de droite, autour d'autres villes de droite. Et pourquoi il vient, Bruno Retailleau? Alors, il a beau dire les accords de la honte entre LFI, les communistes, etc. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que la liste de Thierry Ménien, qui est donc le maire officieux, il est sénateur aujourd'hui, ce monsieur. Il a pris la ville, effectivement, en 2014, à 50 voix près, à 200 voix près. Donc, tout ça, c'est dans un mouchoir de poche, et on y reviendra, parce que c'est la question de l'abstention très forte en Seine-Saint-Denis. Mais il arrive en 2014, il gagne la ville, en 2021 il devient sénateur. Et en fait ce monsieur il a beaucoup de mal avec la loi sur le non-cumul des mandats, c'est qu'il piétine cette loi-là, il n'en a absolument rien à faire, et d'ailleurs il ne s'en cache pas, et il occupe toujours son bureau de maire, alors qu'il n'est plus maire, et donc il est le maire officieux, il y a un maire officiel, mais qui est réellement un pantin. Et donc il veut retrouver la ville, officiellement. Et donc... qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Blanc-Mesnil? Ben, il se passe qu'il y a sa liste, sur sa liste, nous avons un personnage très important au Blanc-Mesnil et très important dans le cadre de mon enquête, qui s'appelle Vijay Monani. Et Vijay Monani, c'est qui? C'est quelqu'un qui a été son directeur de cabinet pendant une dizaine d'années, mais c'est surtout quelqu'un de très proche de Sarah Knafo. C'est par lui que cette fameuse subvention de 20 000 euros dont on reparlera arrivera. Et c'est aussi aujourd'hui, et c'est très important de le rappeler, il est secrétaire général adjoint d'un groupe parlementaire européen qui s'appelle l'Europe souveraine des nations. Et l'Europe souveraine des nations, c'est quoi? C'est le groupe parlementaire dans lequel siège Sarah Knafo, là où il y a à peu près tous les néo-nazis, les néo-fascistes, de l'AFD, etc. Et donc ce monsieur est sur la liste du Blanc-Mesnil, derrière Thierry Ménien. Donc en fait, cette mascarade médiatique qui a été mise en place par Bruno Retailleau il y a deux jours pour dénoncer, soi-disant, les accords de la honte de la gauche, en réalité, c'est une opération pour masquer le vrai accord de la honte, qui est celui de la pseudo-droite républicaine représentée par Thierry Ménien et Vijay Monani, à la droite de l'extrême droite aujourd'hui.
Et ça nous amène au deuxième point de l'actualité. Des gens, trois personnes, trois militants qui ont placardé des affiches dénonçant les accointances entre ce sénateur, ex-maire, mais encore à peu près maire, et l'extrême droite. C'est trois militants, dont un de la FSU, qui ont été placés en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi. Tu dis qu'ils ont été relâchés
tout
depuis.
À fait. Ouais,
ils ont été libérés. L'un est accusé d'injures publiques en lien avec le contenu des affiches. Alors, au début, j'ai cru qu'ils avaient placardé les bonnes feuilles de ton livre, mais il y a un lien. Enfin, je pense que ton livre doit être au cœur de la campagne. Est-ce que tu as des informations par rapport à ça?
Alors, a priori, d'après les informations, mais à vérifier, parce que tout ça est encore très frais et c'est très difficile d'avoir des informations auprès de la police ou du parquet, a priori, il n'y aurait pas de poursuite. Je sais que ces militants considèrent ça comme une tentative d'intimidation dans le cadre de la campagne électorale. Et oui, effectivement, tout ça a un lien. C'est très difficile aujourd'hui d'être un militant de gauche dans une ville comme le Blanc-Mesnil. Et c'est absolument terrible, mais pour quelle raison? Quand il est arrivé en 2014, Thierry Ménien, je le disais, il y a une énorme violence qui s'est installée, une violence sociale, etc. Il s'avère que c'est un rouleau compresseur. Ce rouleau compresseur, en quoi il consiste? Il consiste en fait à dézinguer absolument tout. Donc il est arrivé, la bourse du travail s'est terminée, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Des subventions aux associations, on les supprime, l'accès aux salles, c'est compliqué. Enfin, toutes les possibilités de se réunir, toutes les possibilités de se rencontrer pour soit tout simplement discuter de politique, d'engagement, ou éventuellement organiser une résistance, organiser une contre-riposte, etc., bah, c'est impossible aujourd'hui. Et donc, ils sont obligés de passer par, effectivement, des opérations de collage classique, etc. Et ça finit comme ça parce que il y a une tension, parce que ces gens-là, pour ces gens-là, c'est assez insupportable, en fait, tout simplement, de dénoncer ce qui se passe dans cette ville et de montrer que cette ville est en fait un laboratoire. Aujourd'hui, le Blanc-Mesnil est un laboratoire de cette fameuse union des extrêmes droites. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On peut le remonter quasiment dès l'arrivée au pouvoir de ce monsieur, parce que moi, tout ce que je raconte dans le livre, c'est qu'en réalité, le logiciel politique d'extrême droite, il est là depuis le départ. Sauf qu'il n'était pas possible pour lui de l'afficher, puisque son objectif, c'était d'arriver au pouvoir. Et comment on arrive au pouvoir lorsqu'on est dans une ville populaire avec une forte identité immigrée? En fait, on dissimule son logiciel, parce qu'on doit aller chercher des voix dans les quartiers populaires. C'était les voix qui lui manquaient déjà en 2008.
La vraie taquia.
Oui, c'est ça. C'est une forme de dissimulation. Ouais. Ce qui fait que il va réussir. Effectivement, c'est un coup de force qu'il va réussir à faire. Et pour quelle raison il va réussir à le faire aussi? Au-delà des mensonges et des dissimulations. C'est parce qu'il y a une énorme déception vis-à-vis de la gauche aussi. De la part de militants de gauche eux-mêmes, de la part d'habitants des quartiers populaires, de gens qui disent quoi? Qui disent, mais, enfin, les communistes... on a essayé de faire des choses avec eux. On a voulu avoir le pouvoir avec eux. Ils n'ont jamais voulu nous associer au pouvoir. Et qu'est-ce que va faire Thierry Meignan quand il va arriver en 2014? Eh ben, il va faire en sorte que des gens, des personnalités, des quartiers populaires deviennent maires adjoints. Imaginez que la gauche n'avait jamais fait ça. N'avait jamais permis à des habitants des quartiers populaires, à des habitants d'origine immigrée, d'être associés à l'exercice du pouvoir. Et c'est lui, personnalité de droite extrême, qui va le faire. Sauf que, on le sait bien, ça, tout ça est purement dissimulation, et que la trahison va très vite arriver, dès le début de son mandat, et que aujourd'hui, tout ça éclate au grand jour, parce que, encore une fois, l'extrême droitisation de cette ville-là, elle n'est pas nouvelle, mais aujourd'hui, c'est plus facile de s'afficher avec Bruno Retailleau que ça l'était à l'époque de se dire très proche de Jordan Bardella ou de la famille Le Pen, par exemple.
D'où la réponse à ma question. On peut s'intéresser à cette ville, même si on en ignorait quasi l'existence avant, ce n'était pas mon cas, mais parce qu'en fait, effectivement, elle est un laboratoire, elle est à l'image de ce qui est en train de se passer un peu partout. Alors, je voudrais juste faire à nouveau mon arrêt sur image et relier deux phrases. Hein. Tu dis collage classique et on a parlé de garde à vue. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même ça l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire, moi, j'ai vu les affiches. Effectivement, il y a des gens qui sont nommés sur ces affiches. Enfin, il n'y a rien d'injurieux.
Ah non, il n'y a absolument rien d'injurieux.
Il n'y a aucune raison d'aller en garde à vue en période électorale, de collage politique, enfin c'est le minimum syndical. Ouais. Et donc là, il y a quelque chose de profondément scandaleux qui a été à l'œuvre ce soir-là.
Oui, alors c'est pas nouveau au Blanc-Mesnil. Cette mairie a une certaine facilité à solliciter la police. Surtout sa police à elle, la police municipale. Moi, j'ai vu la police municipale, je l'ai vu quasiment à tous les conseils municipaux. Je ne connais pas la raison, je ne sais pas pour quelle raison il devrait y avoir des policiers devant l'entrée d'un conseil municipal. Alors là, moi, je suis très étonnée de voir ça à chaque fois que j'y vais. Et pourtant, les conseils municipaux se passent bien, il n'y a pas de tension. D'ailleurs, tous ceux qui assistent aux conseils municipaux savent bien que tout ça, c'est des caisses d'enregistrement, hein, on pourra y revenir, hein. C'est un vrai sujet, un vrai angle mort, la question de la superpuissance des maires dans les villes, parce que on sait que l'opposition n'a pas de pouvoir, que ça déroule le projet, le programme politique, et que c'est très difficile de faire exister une opposition politique à cet échelon-là. Mais bref, il y a quand même une facilité, quelque part, effectivement, à solliciter la police. C'en est un exemple très flagrant, mais je crois effectivement que, pour revenir au livre, je ne sais pas quel est l'impact du livre dans le cadre de la campagne. Après, chacun s'empare du livre comme il veut. Maintenant, il est à la portée de tout le monde. Mais en réalité, pas vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est censuré, mon livre, Blanc-Mesnil. En fait, il n'y a plus de librairie. Ça fait partie de ceux qui ont été désingués dès l'arrivée au pouvoir de cette nouvelle majorité. Il y a un seul endroit où on peut potentiellement trouver le livre. C'est le Centre Leclerc. Il y a un espace culturel. Alors, il était à l'achat au début. J'ai des gens qui ont acheté le livre là-bas. Et puis, en fait, on m'a contacté. On m'a dit, mais tu sais que ton livre est plus disponible. Je dis, il ne peut plus en avoir et puis ils vont le recommander. Ah non, en fait, les vendeurs nous ont expliqué qu'il y aurait eu des pressions pour que le livre ne soit plus disponible et qu'il a été retiré des rayons. Alors ça, ça s'appelle un refus de vente. Normalement, c'est illégal. Et donc, aujourd'hui, il y a un livre, 500 pages d'enquête sur le Blanc-Mesnil, et les habitants du Blanc-Mesnil n'y ont pas accès. Et dernière information, ceci.
Alors, le Blanc-Mesnil, histoire d'une renaissance de Xavier Jacobi. Ah oui, tu testes ma vue là, du Liège.
Alors voilà, ce livre-là, c'est en fait le contre...
Sinon, on n'a pas de caméra automatisée comme dans les studios d'arrêt sur image, donc je ne sais pas si on a bien le lit. Il faut le monter un petit peu, voilà. C'est à l'ancienne ici, hein, c'est à la bonne franquette. Voilà, là on voit le livre. Alors qu'est-ce qu'il a ce livre ?
Alors ce livre-là, c'est
si
tout simplement...
Si j'achète le tien, j'en ai deux comme ça.
Alors non, j'espère pas, parce que celui-là, j'espère que tu ne l'auras pas. Celui-là, c'est le contre-livre qui a été écrit par la majorité... Le contre-livre au mien, qui a été diffusé qui a été diffusé le même jour que le mien, que la sortie du mien, le 11 février. Alors, il est soi-disant au même prix que le mien, 24€, sauf qu'il a été distribué gratuitement aux électeurs devant le centre Leclerc.
D'abord, tu mens. Le tien est à 23,90€.
D'accord. Et donc, c'est pour te dire dans quelle dimension on est. C'est-à-dire qu'on a une majorité qui a pris le temps d'écrire un contre-livre au mien, en réponse au mien. Et d'ailleurs, c'est très marrant, parce que quand il y a des journalistes qui contactent la mairie dans le cadre de mon livre, ils leur disent « Oui, enfin, il y a quand même un livre très intéressant qui a été écrit sur la gestion du Blanc-Mesnil, vous devriez vous intéresser. » Alors, ce Xavier Jacobi du Liège, là, qui nous est présenté sur la quatrième de couverture comme journaliste spécialisé dans les politiques publiques territoriales, en fait, c'est le patron de l'agence de com qui s'occupe du journal municipal de la ville. Voilà. Voilà où est-ce qu'on en est.
C'est une magnifique médaille, tout de même, pour toi.
Oui, peut-être.
C'est quand même la médaille du mérite, là.
Voilà. Mais
Bon, alors, je n'ai pas lu ce livre. Je vois bien que tu l'as un peu dévoré, comme moi j'ai dévoré le tien.
Dévoré, je ne sais pas si c'est le terme, mais je l'ai lu, en tout cas.
Enfin, tu l'as lu, voilà. Et je te laisse, j'imagine, répondre à ta manière, d'une façon ou d'une autre, à cet ouvrage-là. Mais effectivement, c'est, comme dit le chat, une dinguerie d'entendre tout ça. Page 17, premier chapitre. Alors il y a un autre chapitre, il y a un préambule où tu expliques les menaces dont tu as fait l'objet, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais je voudrais démarrer par le récit en tant que tel. Page 17, Philippe Wan Mong s'est suicidé. Il s'est défenestré de son appartement situé au 14e étage de la tour où il habitait, au 53 rue des Prairies, dans Paris, 20e arrondissement. C'était celle qui offrait, jurait-il, la plus belle vue dans tout Paris. Philippe avait 46 ans. Un homme qui venait rendre visite à un ami de la résidence a découvert son corps gisant dans la cour privative, face contre terre, à 20h52. Voilà comment démarre ton livre, ton enquête. Peux-tu nous parler de ce monsieur
Bien sûr.
En quoi il est important dans le fil comme fil rouge de ton travail,
ouais.
6 ans d'enquête.
Effectivement, il s'appelle Philippe Wang Mang, il avait 46 ans. Il était le directeur de la voirie de la ville et il y travaillait depuis 99. Il se suicide en 2014, le 26 octobre 2014. Et c'est un personnage et une personne importante au Blanc-Mesnil. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui connaît le mieux la question de l'eau. En fait, le Blanc-Mesnil a une particularité. Ils ont la ville a sa propre ressource en eau. Sous terre, ce qui n'est pas le cas des autres communes de la Seine-Saint-Denis. Et donc, c'est quelque part une énorme richesse et un énorme privilège. Et donc, c'est celui qui connaît le plus ça. Et pourquoi il est important à l'arrivée de la nouvelle majorité ? Parce que le marché de l'eau, et on le sait, les marchés de l'eau, ce sont les plus gros marchés des collectivités territoriales. C'est plusieurs millions d'euros ici au Blanc-Mesnil. Le marché est arrivé à expiration avec l'arrivée de la nouvelle majorité. Et donc, on savait qu'il fallait rediscuter la question de la délégation du service public de l'eau. Il s'avère que c'est lui qui avait en charge ce marché. Et donc, toute mon enquête a été de comprendre quel a été le contexte du suicide de Philippe Wang Mang, pour quelles raisons il s'est suicidé, dans le cadre de l'enjeu extrêmement fort, enjeu politique, parce que les communistes avaient commencé à réfléchir autour d'une régie publique de l'eau, ce qui évidemment la droite ne souhaitait pas, et enjeu économique, puisqu'encore une fois, c'est un gros marché financier.
Alors, justement, ce ce marché fait l'objet très tôt de contestations parce que il y a plusieurs zones d'ombre. Alors tu rentres dans les détails, on va pas forcément les donner ici, mais c'est en grosso modo l'archétype du marché public et d'une forme d'opacité.
Oui,
les règles ne sont pas respectées. Il y a une première compagnie qui rafle le marché, mais qui oublie dans son appel d'offres un certain nombre de frais, donc le truc est cassé, puis c'est repris, etc. etc.
Ouais.
Qu'est-ce que, au-delà de l'enjeu local, qu'est-ce que ça nous dit pour ceux qui s'intéressent à la politique au sens large du terme?
Alors, ça dit plein de choses. D'abord, ça dit que le maire est quand même, encore une fois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tout puissant. Il s'avère que la dernière réunion de discussion avec les entreprises qui sont candidates au marché de l'eau, en fait, il est tout seul, le maire. Il est tout seul face aux entreprises. Et c'est pas une anomalie, institutionnelle. C'est légal. C'est-à-dire qu'il a le droit de recevoir seul des candidates, des entreprises, dont l'une va être choisie. Et donc, du coup, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On n'a pas connaissance de ce qui se passe. Le maire est tout seul face à ses entreprises. Ça, c'est un vrai problème qui est, je trouve, peu mentionné en général sur ces sujets-là. Donc, ça pose cette question-là. L'autre question, c'est la porosité entre les politiques et les entreprises. Ça, c'est quelque chose de très flagrant dans le cadre du Blanc-Mesnil. Je raconte la raison de cette porosité qui est liée tout simplement à la carrière professionnelle de ce Thierry Meignen avant d'être maire. Et puis, malheureusement, Philippe Wangmang va se suicider juste avant le choix de l'entreprise qui va rafler le marché.
Alors, je te propose de continuer l'histoire telle que tu l'as écrite, finalement, de découvrir peu à peu et parfois de revenir, puisque c'est sans cesse des allers-retours et c'est ça qui fait le sel de l'enquête. Alors d'abord, ce maire, quand il est candidat, il a, tu en as dit un petit peu de mots, mais je crois que c'est très important d'appuyer là-dessus. En fait, il va s'adresser au quartier. Il va s'adresser au quartier, il va faire des promesses d'écoles musulmanes, de mosquées. Donc, il est dans l'électoralisme qui est, par exemple, critiqué envers LFI. Tu vois. Bon, voilà. Lui, il le fait. Il fait ça. Et à grand trait, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, d'abord, il faut dire que cette question du clientélisme, puisque c'est de ça dont on parle, bon, franchement, elle est partagée partout. Hein. À gauche comme à droite, on va pas se raconter d'histoire, tout le monde le fait, etc. La vraie différence avec cette majorité-là, c'est qu'en fait, il y a quand même un fonctionnement et une mise en place très méthodique, quasi industrielle en fait. Ils vont vraiment quadriller l'ensemble de la ville. Et au nord de la ville, ils vont aller cibler la communauté musulmane qu'on considère comme trop proche des communistes et on va vouloir la retourner, tout simplement. Et comment on va faire ça? Ben effectivement, on va faire des promesses, un grand classique. Sauf que là, encore une fois, tout ça est très excessif, tout ça est presque caricatural. Je raconte, par exemple, comment le maire va promettre une école musulmane à un certain nombre de personnalités de la communauté, comment il va trahir cette promesse. Je raconte des réunions, je raconte aussi comment il va aller dans une mosquée, et ça c'est, là il était déjà maire, il va dans une mosquée, il est à côté de l'imam, j'ai la vidéo, hein, donc vraiment je vous en parle, j'ai vraiment en tête les images, il est à côté de l'imam, et il va montrer comme ça, comme un butin de guerre, le permis de construire de la future mosquée de la ville, et les gens vont applaudir, etc. Ce qui est fascinant, c'est qu'on est quand même face à des gens qui exècrent toute la semaine ce qu'ils appellent le communautarisme. Donc il y a une très très grande ironie, une très grande contradiction, je sais pas comment on peut l'appeler, d'à la fois dire c'est monstrueux, ces gens qui vivent en communauté, qui sont recroquevillés sur eux-mêmes, qui ne s'intègrent pas, et de l'autre nourrir clairement ce communautarisme-là, qui pour moi n'est pas un problème. Je veux dire, qu'on s'organise en tant que communauté pour avoir sa mosquée, Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que c'est bien que les gens se sentent bien là où ils sont. Le problème, c'est d'en faire un moyen de chantage politique. Et surtout aussi, dans ce contexte-là, de jouer sur les vulnérabilités des gens. Parce que on est quand même face à des gens vulnérables. Des gens qui sont de conditions sociales, économiques très défavorables. Des gens qui parfois arrivent de leur pays d'origine depuis pas très longtemps, ne connaissent pas leurs droits, ne connaissent pas les lois françaises, ne connaissent pas le système institutionnel français. Et donc, en fait, ces gens-là vont toucher cette vulnérabilité. Et c'est là qu'il y a un vrai problème.
Il n'y a pas que ça. Page 69. Ce que les agents municipaux ignorent, c'est que Thierry Ménien s'apprête à faire appliquer ses propres méthodes de travail à l'hôtel de ville. Et là, prenons une minute ou deux pour dire quel est le travail avant la vie politique de ce monsieur.
Ah oui, tu veux divulgacher donc le livre alors.
Oh, mais ça, non, mais ce que ça tu le dis très
oui,
vite.
C'est vrai.
Tu le dis très vite.
Oui,
non, là, là, on n'a pas.
Je sais pas. Est-ce qu'on peut faire une petite devinette à ceux qui nous regardent?
Alors, quel était le métier de monsieur Thierry Ménien? Nous allons avoir trois propositions. Il était dentiste, pompier ou
agent des renseignements.
Alors, pompiste.
Pompier, dentiste, ou travaillant dans les renseignements.
Voilà, donc on a compris, il était dentiste. Donc, en quoi son travail de renseignement, donc de boîte de renseignement économique, etc., comment, parce que ça revient dans ton enquête, comment, selon toi, cette culture-là l'amène à gouverner la ville, à régenter les conseils municipaux, etc.
Alors en fait, c'est une méthode de surveillance généralisée.
Dentiste des renseignements, c'est ça.
Dentiste des renseignements. C'est une surveillance généralisée en fait qui va se mettre en place. Je fais parler une ancienne collaboratrice qui explique que dès qu'elle est arrivée à l'hôtel de ville, elle a travaillé au cabinet, on lui a dit tu vas être les oreilles et les yeux de la ville. Tu dois nous renseigner ce qui va se dire à la fois à l'hôtel de ville et à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande aux agents, on demande aux fonctionnaires, ou pas, hein, statutaires ou non, de venir au rapport. De venir au rapport. De venir en expliquant que pense un tel, que dit un tel, parfois même de suivre des agents. Il y a des agents qui m'ont expliqué qu'on les photographiait dans le cadre de leur travail, ou alors quand ils prenaient une pause pour aller au café, on les photographiait, on diffusait ces photographies au cabinet. C'est cette méthode-là, en fait, qui va être mise en place et qui est donc tirée, tout simplement, de l'exercice professionnel de ce monsieur.
Mais ce qui est quand même propre, on pourrait dire, à n'importe quel maire qui essaie toujours de savoir ce qui se dit dans sa ville, dans sa commune, dans son village, dans sa préfecture. C'est logique qu'il essaie d'avoir les oreilles un peu partout.
Alors, à ce niveau-là, de suivre des agents, de les prendre en photo, diviser les agents en disant un tel a dit ça de toi, tu vois, ça veut dire qu'il veut pas de toi. Ça, c'est, enfin, franchement, enfin, c'est des méthodes très particulière. Moi, pour avoir quand même travaillé sur un certain nombre de communes, etc., j'avais jamais vu ça à ce niveau-là de sophistication et à ce niveau-là aussi d'organisation en fait au sein de la ville. Je sais pas si toi tu as vu d'autres choses de ce type-là, mais mais moi, franchement, j'ai jamais vu ça.
Alors, il y a des raisons, et ça, pour ceux qui connaissent l'histoire politique, c'est qu'en fait, il y a, dans cet appareil municipal, il y a un gars qui s'appelle Gérard Le Suisse, profession coupeur de tête, qui appartient à une famille politique très, très marquée, on pourrait dire, c'est les Pasqua Boys.
Ouais.
Donc là, il faut revenir un tout petit peu sur l'histoire du monde politique de l'Île-de-France, qui était tenu par Pasqua et par ses hommes. Le Suisse va travailler, je crois, avec Serge Dassault. Enfin, il va travailler à Corbeil-Essonne, qui va être une commune qui va connaître tout un tas de rebondissements, d'affaires dans tous les sens, etc.
Ça a été le directeur de cabinet de Serge Dassault. Ouais.
Exact. Et donc, ce Gérard Le Suisse, c'est lui qui va poser, tu le décris comme le harceleur finalement du fameux Philippe qui va se suicider. La justice dira un jour s'il est responsable ou pas. Mais en tout cas, c'est lui qui lui envoie des emails à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, du petit matin et du grand soir. Et donc, voilà, je voudrais que tu nous précises un peu cette ambiance. Ouais. Qui sont ces hommes? Parce que c'est surtout des hommes, bien qu'il y ait quelques femmes. Comment ils travaillent? C'est quoi leur méthode? C'est quoi leur façon de faire?
Oui, alors c'est très important parce qu'effectivement, en 2014, quand donc ce Thierry Meignen arrive à la tête de la ville, donc vous l'aurez compris, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement d'une ville. C'est pas son travail, c'est pas son contexte, il connaît pas. Et donc, il va devoir s'appuyer sur des forces. Et ce Gérard Le Suisse va arriver. Gérard Le Suisse, c'est qui? C'est quelqu'un donc qui est le conseiller spécial de ce fameux maire. Conseiller spécial, ça fait très pompeux, mais en fait, il avait épuisé le nombre de personnes qu'il pouvait avoir au cabinet, et donc pour contourner la loi, il va créer ce poste de conseiller spécial. Mais ce monsieur, il est très important parce qu'en fait, il connaît très précisément le fonctionnement d'une collectivité territoriale comme une commune, d'une commune. Ce que Thierry Meignen ne sait pas. Et donc, son passé, c'est quoi? C'est effectivement, il est passé par ces fameuses communes qui ont été à gauche et qui ont basculé à droite dès le milieu des années 80. Dans les Hauts-de-Seine, puisque lui, il vient de là. Dans le 92, ce département très riche où il y avait Nicolas Sarkozy, Charles Pasqua, etc. Et donc, il va commencer comme ça. Il va commencer comme ça, aux côtés d'un maire qui s'appelle Philippe Pemzec, qui est d'ailleurs toujours maire du Plessis-Robinson depuis maintenant la moitié des années 80, c'est dire la longévité de ces gens-là. Et il va comme ça être dans le circuit de tous ces maires qui vont faire basculer des mairies de gauche à droite. Il va être avec Philippe Pemzec, il va aller aussi du côté de Roy Malmaison, Serge Dassault à Corbeil-Essonne, etc. Et lui, son travail, c'est quoi? C'est de couper les têtes de tous ceux qui dépassent. C'est son travail. Il est là pour ça. Et il est là aussi pour d'autres choses, mais il est là pour ça. Ça veut dire que tous les grains de sable, tous les gens qui gênent l'exercice du pouvoir, les opposants, les pas opposants, mais qui sont quand même interrogatifs, pas forcément d'ailleurs des gens qui sont politisés, hein, des gens qui juste s'interrogent. Ceux-là, on va les écarter. Et donc, il y a une chasse aux sorcières qui va s'opérer très vite, dès le début du mandat de 2014, et un certain nombre de gens vont partir ou devoir partir. Alors, l'alternance est assez classique hein, dans ce genre de contexte. D'ailleurs, là, pour les prochaines municipales, il y aura aussi de l'alternance, c'est-à-dire des gens qui vont devoir partir parce que ne se sentant pas à l'aise avec la nouvelle ligne politique. Un grand classique. Sauf que là, c'est quand même beaucoup de gens qui partent. Et puis, il y a des gens qui partent manu militari presque hein. Et il y a ceux qui comme malheureusement Philippe vont se donner la mort.
Page 97. C'est en découvrant le contenu de la boîte mail professionnelle de Philippe Wang Mong que ses collègues prennent vraiment conscience de l'ampleur de la situation. Le nombre de courriels que Gérard Le Suisse lui adressait, leur fréquence, les motifs, leur ton discourtois, cassant, parfois humiliant, voire menaçant.
Ouais.
Tu peux donner quelques exemples, parce que manifestement, tu as eu accès à la boîte mail,
ouais.
Puisqu'on a sur deux pages tous les horaires auxquels
oui, oui.
Il recevait soit des... D'ailleurs, il y a aussi les SMS, mais juste en deux mots, donner une
non,
petite...
Non, mais ça, c'est très important, parce que...
J'adore, tu dis toujours, c'est très important. Ta réponse est toujours...
C'est vrai que, en fait, j'ai vraiment voulu décrire dans le détail le plus possible, parce que, en vrai, c'est des choses que beaucoup de gens peuvent vivre dans leur vie professionnelle, et absolument. Pas dans le cadre uniquement d'une collectivité territoriale. C'est-à-dire la pression managériale, le fait de devoir répondre tout le temps aux sollicitations, etc. Et effectivement, c'est un monsieur qui, visiblement, ne dormait pas beaucoup. Et envoyer des mails, des SMS, appeler en permanence. Ça, Philippe Wang Mong s'en est ouvert à ses proches et surtout à ses collègues en expliquant qu'il n'en pouvait plus. Qu'il n'en pouvait plus, que c'était plus possible, qu'il était même dérangé pendant ses vacances et qu'en fait, il ne vivait que pour son travail. Il faut quand même expliquer que Philippe Wang Mong, c'était pas quelqu'un qui était opposant à la majorité. C'était même plutôt quelqu'un qui était content de voir un changement. Donc ils se sont pas forcément pris à la bonne personne. Il l'avait dit à sa famille. C'est une bonne chose que ça change. Sauf qu'évidemment il n'allait pas imaginer ce qu'il allait lui tomber dessus.
Alors il y a tout le long de la lecture, j'ai eu une question à laquelle tu ne réponds pas. Alors, ouais. Peut-être ma question n'est pas bonne. C'est comment? Quand on met en place, quelqu'un pose la question dans le chat, est-ce qu'on parle de la Russie ou de la France? On parle de la Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc de la France. Oui, oui, on parle bien de la France. Comment se fait-il que quand on met en place un tel système où on coupe les têtes de tout ce qui dépasse, etc., on puisse tenir? Tu parlais tout à l'heure de ce maire d'une autre commune qui est là depuis 40 ans, qui règne depuis 40 ans. C'est-à-dire que comment, à un moment donné, on ne tourne pas à vide?
Ça veut dire quoi, on ne tourne pas à vide? Donc...
Et ben dans le sens où il n'y a plus personne sur qui s'appuyer pour faire tourner la machine.
Tu veux dire à l'intérieur du système?
Ouais.
Ah non, mais on trouve toujours des gens. Enfin, la question c'est, est-ce qu'on finit par être seul?
Ouais.
À l'intérieur du pouvoir?
Ouais.
Mais non. Alors, moi, mon explication c'est que, alors, je ne sais pas pour les autres communes, mais en tout cas pour le Blanc-Ménil, on est dans une ville populaire. Il fait froid dehors. Les gens ont peur de perdre leur travail, de perdre leur place en crèche, de ne pas avoir leur logement, etc. Et ça tient quand même beaucoup à ça. Ça tient beaucoup à ça. Il y a quand même un certain nombre d'habitants moi, qui m'ont dit « Écoute, moi je suis d'accord avec tout ce que t'ont dit les autres habitants, tout ce que tu me racontes, c'est exactement comment ça se passe, mais je ne peux pas te parler. Parce que si je parle, si je dis exactement ce qui se passe, ce que je vois, je perds tout. » Et en fait, on mise sur la vulnérabilité des gens. On mise clairement sur la fragilité des gens. Le système perdure parce que on est dans une ville populaire où les gens n'ont pas les moyens de s'organiser. Parce que aussi, on a tout dézingué. On refuse des accès aux salles pour se réunir. On baisse les subventions des associations qui sont des lieux où les gens pourraient se rencontrer. Et donc, en fait, on isole les gens. On isole les gens, y compris même les gens qui étaient plutôt engagés. Moi, j'ai connu des gens, je connais des gens qui étaient engagés au Blanc-Ménil, et pas d'ailleurs forcément encartés, mais juste engagés pour leur ville, des citoyens engagés, et qui m'expliquent qu'en fait, au fur et à mesure, comme ils n'ont plus accès à rien, eh bien, ils sont mis de côté, marginalisés. Et comme il n'y a plus ce lien entre les gens, ben en fait, tout le monde est seul, tout le monde est isolé, et il n'y a plus rien qui se passe. Donc le système, il tient aussi à ça. Et puis, il tient aussi parce que, enfin, moi, je suis effarée, et c'est la conclusion de mon enquête, c'est du manque de contre-pouvoir, en fait, de solidité, de garde-fous. Où sont les garde-fous? Il y a des opposants qui ont signalé des choses au procureur de la République, à la préfecture. Il ne s'est jamais rien passé sur la fameuse subvention à Sarah Knafo ou sur d'autres choses. Et tout ça passe, tout le programme est déroulé et il ne se passe rien. Alors, il faut évidemment parler du contexte. Quel est le contexte? C'est un contexte d'austérité budgétaire. C'est un contexte où on a désossé les services publics. Et donc, ces gens-là qui sont au pouvoir, ils sont à la fois maires, et puis il est à la fois sénateur, donc il vote la loi. Donc il vote toutes ces lois qui tricotent les services publics. Donc il est à la fois celui qui fait la loi et celui qui en tire profit, tire bénéfice à l'échelle locale. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont raconté que Thierry Ménien, il était très peu au Sénat. Il est sénateur aujourd'hui. Très peu au Sénat. Qu'est-ce qui se passe? Il est très peu au Sénat, mais il est beaucoup au Blanc-Ménil. Donc en fait, il tire ses indemnités du Sénat. D'ailleurs, il va faire visiter le Sénat à un certain nombre d'électeurs, les seniors notamment, qui a une manne électorale très forte pour lui, puisqu'il y a une forte abstention dans la ville. Et puis, il va aller déjeuner avec Sarah Knafo à la cantine du Sénat. Et on voit bien que s'organise...
Il y a deux salles, tu sais. Tu sais qu'il y a deux salles. Il y a la salle de droite et la salle dite de gauche.
Bon, ben, on peut présumer que ce sera plutôt à droite. Oui. Donc il va s'organiser politiquement aussi grâce au Sénat. Et puis il va pouvoir dérouler tout son programme, notamment le programme immobilier dont je parle beaucoup dans le livre, au Blanc-Ménil et bénéficier du détricotage qu'il a lui-même opéré en tant que sénateur. Mais c'est vrai que ça pose une vraie question de contre-pouvoir, de garde-fou. Et en fait, une des explications, c'est que la préfecture n'a plus les moyens de faire faire sans contrôle de l'égalité de tous les actes des collectivités territoriales. Moi, j'ai appris en faisant l'enquête qu'il y a des millions d'actes qui ne sont pas...
Tu parles de 7 millions d'actes et qui sont contrôlés par 820 agents.
Oui, et c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du gouvernement lui-même. Et donc, il y a des millions d'actes qui ne sont pas contrôlés. Et pas parce que les agents ne veulent pas faire leur travail, mais parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. Et donc, en fait, ces gens-là tirent bénéfice de cet effondrement total institutionnel.
Ma question a amené le chat à discuter, et je te laisse ça à ta sagacité pour après l'émission, ou si tu veux répondre. Il y a d'un côté Trognon qui dit « Le pouvoir rend avide, l'attraction est énorme », et il y a quelqu'un d'autre, c'est Data, qui dit « Non, c'est le contraire, c'est la précarité qui tient les gens ». Peut-être que ce sont les deux.
Ouais.
Alors, tu parlais de contre-pouvoir.
Je peux juste rebondir, on parle effectivement de la gestion de Fréjus par le RN. Ce qui est très intéressant, c'est que ce monsieur, donc, on parlait de dissimulation. Il est LR officiellement, donc les Républicains officiellement. En réalité, et ce qu'il fait quand il est au Blanc-Mesnil, et ce qu'on font quasiment tous les maires, et notamment à l'extrême droite, c'est de dire « Ah non, mais moi, je fais pas de politique. Moi, je suis apolitique. Moi, je gère ma ville. » Alors, en général, quand vous avez quelqu'un qui dit ça, vous pouvez être sûr qu'il fait de la politique, et quand il l'a fait, il l'a fait souvent à droite extrême. Il s'avère que quand on regarde ce qui a été fait par cette municipalité, cette majorité, depuis 2014, si on prend tous les secteurs, ça ressemble vraiment étrangement à la gestion d'une ville par le Front National ou le Rassemblement National. Par exemple, la question de la mise à mal des libertés associatives, la question de la baisse de subventions à un certain nombre d'associations, la question de la suppression, ou en tout cas de la très forte diminution des aides sociales, et notamment les assistantes sociales. Il y avait un certain nombre d'assistantes sociales au Blanc-Mesnil, aujourd'hui il n'y en a presque plus, et c'est le département qui est à gauche qui permet aux assistantes sociales de continuer à faire leur travail, puisque ce sont les assistantes sociales du département qui exercent dans la ville, ce qu'il n'y a quasiment plus à l'échelle de la localité. La question de la délégation au privé d'un certain nombre de services publics. Tout ça, c'est exactement ce qu'on retrouve dans les villes gérées par le Rassemblement National, et il a même été plus loin. Robert Ménard, qui est le maire de Béziers, le fameux maire de Béziers, qui n'est pas RN, mais qui est très proche de l'extrême droite, a voulu fermer la Bourse du Travail en 2014, lorsqu'il est arrivé à la tête de la ville. Eh ben, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Et pour quelle raison il l'a pas fait? On peut imaginer qu'il s'était dit peut-être que c'est un peu trop gros. Eh ben, Thierry Meignen, lui, qu'est-ce qu'il fait? On est le 31 décembre 2015. Il fait changer les serrures de la Bourse du Travail et empêcher l'accès à la Bourse du Travail des agents, enfin du personnel et des associations qui sont dans la Bourse du Travail. Et c'est une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il désingue cette bourse. Voilà, c'est quoi aujourd'hui la gestion d'une ville soi-disant LR, mais qui est en réalité clairement une ville gérée par une droite extrême qui ne dit pas son nom. Ça se passe dans le 93. Et si ça peut se passer dans le 93, si ça peut se passer dans une ville populaire, dans une ville à la forte histoire d'immigrés. Mais en fait, ça peut se passer partout ailleurs. Ça veut dire qu'on est mûr pour que ça se passe partout ailleurs. Et c'est l'avertissement, effectivement, de mon livre.
C'est pourquoi ce que tu viens de dire, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter plus tôt que prévu, en fait, parce que je me suis dit, non, en fait, l'enjeu, c'est les municipales qu'il y a derrière ton livre. En tout cas, c'est la gestion des villes. Alors, vas-y.
Mais comment ces maires qui cassent les villes continuent à se faire réélire? Ça, c'est une question évidemment très importante. Pour quelle raison ils continuent à se faire réélire, ces gens-là? Parce qu'il y a une forte abstention. Voilà le sujet. Parce que d'abord, il a dégoûté un certain nombre de gens qui étaient avec lui. Parce qu'en 2014, il gagne grâce aux voix des quartiers populaires. En fait, il a un socle électoral assez fidèle. En gros, l'électorat du centre-ville, l'électorat pavillonnaire. Il faut savoir qu'on est dans des villes où la majorité du tissu d'habitation, ce sont des pavillons, à 60-70%. Le reste étant les cités et les tours des quartiers populaires. Et donc, il a ce socle électoral, donc il sait que sa seule réserve de voix possible, ce sont les quartiers, et c'est là où il va s'associer à un certain nombre de personnalités dans les quartiers pour les mettre maire adjoint et pour, etc., exercer le pouvoir. Sauf que la trahison arrive vite. Mais alors, du coup, ces gens-là, ils sont passés de l'autre côté, mais quand même, un certain nombre de gens sont dégoûtés. Et donc, ne votent plus. ni à gauche, ni à droite d'ailleurs. Il y a toujours eu des abstentionnistes, mais il y en a quand même beaucoup plus aujourd'hui. Et donc en fait, pourquoi il se fait réélire ? Bah parce que d'abord, il sait qu'il y a des abstentionnistes, et puis lui, il a son socle à lui qui lui est hyper mobilisé. Et donc en fait, ça passe. Alors ça passe de peu, hein, mais ça passe. 2020, c'était quand même particulier, c'était le Covid. Donc je pense que c'est difficile d'avoir ça en tête. Il est passé au premier tour hein, en 2020, mais c'était quand même très particulier, la crise sanitaire, etc. Le grand test, ça va être là, maintenant. Et effectivement, bah, y a une liste plutôt unie à gauche qui se présente contre lui.
J'aime le plutôt.
Oui, pourquoi je dis plutôt ? Parce qu'en fait, il y a aussi une liste citoyenne. Et la liste citoyenne, il y a des gens de gauche, il y a des déçus de Ménien. Il y avait d'ailleurs un maire adjoint de Thierry Ménien, ces fameux habitants des quartiers populaires. Il y en a un dans cette liste citoyenne, mais en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se réunir.
Alors, tu parlais de contre-pouvoir. Je vais, puisque je vois qu'il y a des fans d'Arrêt sur Image, Arrêt sur Image représente, qui sont là. Je vais à mon tour faire ma Nassira.
C'est quoi faire ça, Nassira ? Vas-y.
Bah, où est le contradictoire ?
Ah.
Bah alors, la journaliste, là, il est où le contradictoire ?
J'aurais bien aimé avoir le contradictoire. Je les ai contactés tout le long de l'enquête. Alors, au départ, pour avoir accès à un certain nombre de documents, j'ai fait des mails à n'en plus finir sur tous les marchés publics auxquels je voulais avoir accès. Voilà, tous les documents que je voulais avoir. Il s'avère que j'ai eu une fin de non-recevoir. Donc, j'ai dû passer par la fameuse commission d'accès aux documents administratifs, qui est d'ailleurs accessible à tout le monde. Tous les citoyens peuvent avoir accès à cette CADA pour avoir accès aux documents. C'est la loi qui le dit, la loi de 1978 sur la bonne relation entre les administrés et l'administration, et même avec l'avis favorable.
Donc ça veut dire que si vous voulez connaître un document, un rapport qui n'est pas public, mais dont vous connaissez l'existence, vous pouvez dire, en tant que citoyen ou citoyenne, je veux avoir accès à ce document. Là, la CADA a...
deux avis favorables pour que je puisse avoir accès à ces documents-là.
Et combien de mois ? 6 mois, je crois, hein, pour répondre.
Je sais plus.
C'est assez rapide.
Ouais, oui, je sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai deux avis favorables de la CADA pour avoir accès à ces documents. Et même avec ça, la mairie du Blanc-Mesnil me refuse l'accès à un certain nombre de documents que j'ai demandé. Et donc, bah, du coup, je fais des mails. Et puis, évidemment, à la fin de mon enquête, bah, je fais le contradictoire, comme tu dis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sollicite Thierry Ménien, Vijay Monani, qui est donc le directeur de cabinet, qui était Nicolas Rondepierre, qui est directeur de cabinet adjoint, qui est candidat à la mairie du Raincy, à côté, dans le 93. Et Christine Sérigone, qui est la première maire adjointe, qui est la compagne du maire Thierry Ménien, parce que tout ça est en famille. Il y a la sœur aussi, qui est adjointe au sport, et le sport c'est très important dans cette ville, notamment le judo. Bref, je fais ce travail de demande de contradictoire, c'est évident, enfin c'est le béaba de notre travail. Bah, sauf qu'en fait, ils ne me répondent pas. Ils ne me répondent jamais. Et donc, aujourd'hui, ils ont beau jeu de publier un communiqué en expliquant que j'ai fait un travail à charge. Le travail est à charge uniquement parce qu'ils n'ont pas souhaité me répondre. S'ils avaient voulu me répondre, ben, j'aurais pu mettre leur défense, entre guillemets. Mais ils ne m'ont jamais donné l'occasion de le faire.
Donc, si jamais tu étais poursuivi en diffamation, tu pourrais, là je fais œuvre de pédagogie, tu pourrais dire, faire valoir ta bonne foi et le sérieux de ton enquête qui de facto te défendent.
Alors, moi je n'ai pas de lien. Alors, moi, juste quand même pour le dire aux gens qui nous regardent, moi je n'ai pas de lien avec le Blanc-Mesnil. Donc, je ne suis pas en opération politique, parce que c'est ce qui est dit par cette majorité qui considère que je travaille main dans la main avec l'opposition. Il s'avère que, d'abord, moi, l'opposition, c'est pas mon problème. Je n'ai pas de lien, quel que soit, avec la ville, pas de famille. Je ne suis pas en opération de revanche, de vengeance ou quoi, ou qu'est-ce. Je fais mon travail. Je fais mon travail de journaliste. Il s'avère qu'il y a un certain nombre de choses graves qui m'ont été rapportées, que j'ai vérifiées, croiser les sources, accès à des documents, à des enregistrements, à des archives, et qu'à la fin, ça donne ce livre, et que la demande de contradictoire a été faite, et que c'est eux seuls qui n'ont pas souhaité répondre. Et par ailleurs, sur la question des menaces de porter plainte, ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont écrit un communiqué où ils ont menacé de porter plainte. Alors, moi, honnêtement, je suis pas étonnée, puisque c'est... une majorité qui a l'habitude de menacer, de procès un certain nombre de gens. Ils l'ont fait notamment avec le dessinateur Remedium qui a chroniqué.
Ah mais oui, bien sûr.
Qui a chroniqué pendant des années l'exercice du pouvoir de Thierry Ménien. La bande dessinée s'appelait Titi Gnangnan, s'appelle Titi Gnangnan. Et donc lui aussi, il a eu affaire à cette majorité-là. Donc je ne suis pas étonnée. Mais en réalité, moi, j'ai eu accès à un mail envoyé par le vrai maire officiel, Jean-Philippe Ranquet, à l'ensemble des agents, où d'abord ils expliquent que je suis une militante d'extrême gauche, enfin un grand classique aujourd'hui, et puis on menace, des menaces à peine voilées à l'égard des agents et à l'égard de tous ceux qui partageraient, diffuseraient le livre. En fait, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est ça. C'est-à-dire... comment ce pouvoir, et c'est le cas dans beaucoup d'autres situations, va en fait faire peur aux gens. On va faire peur aux gens. Et on va parler de militants d'extrême gauche. Et puis dans un autre communiqué, on va rappeler ce qui s'est passé à Lyon. Et donc par capillarité, comme ça, on va faire des liens entre une journaliste qui fait son travail de journaliste, l'extrême gauche, enfin la soi-disant extrême gauche, Quentin Derenck, Lyon, et vous voyez les liens qui sont faits, et en fait c'est tout simplement une volonté de faire peur. C'est-à-dire si vous, en gros, vous votez pour la gauche, vous allez avoir affaire à des gens violents, et ça rejoint ce qui s'est passé avec les fameux militants qui ont été arrêtés pour le collage d'affiches. C'est exactement ça. C'est la peur qu'on instaure dans un cadre électoral où effectivement c'est tendu. Ça a toujours été tendu au Blanc-Ménil, mais en Seine-Saint-Denis en général et dans d'autres territoires, c'est tendu. Mais enfin, l'exercice de la liberté d'expression, l'exercice de la liberté d'opinion et de la liberté aussi de s'opposer à une politique qui est menée... Enfin, il n'y a rien d'illégal. Je veux dire, on peut encore, dans ce pays, laisser des gens, des militants... s'exprimer, y compris dénoncer une extrême droite, sans se faire envoyer la police et sans menacer de procédure bâillon une journaliste qui a enquêté de bonne foi pendant 6 ans avec un livre qui ce que dit la municipalité, c'est de dire c'est un livre sans preuve. Enfin, j'ai plus de 70 sources qui me parlent. S'il y a 70 sources qui se sont concertées pour faire un complot contre la municipalité, ils sont très forts. Non, non, non. Il y a 70 sources, il y a des documents, il y a des archives, il y a des enregistrements, et il y a évidemment tout ce qu'il n'y a pas dans le livre, parce que ça, je me le réserve évidemment au cas où, mais c'est un travail sérieux, et ça suffit de décrédibiliser le travail de presque 6 ans d'enquête.
Chapitre 11, tu te souviens quel est le thème du chapitre 11?
Non.
Effacer ces communistes que je ne saurais voir. Est-ce que tu peux raconter ce que Thierry Ménien a fait quand il est arrivé tout de suite au pouvoir? Ah, je vois que tu regardes le chat.
Ouais, j'aime bien.
Inquiète, peut-être.
Non, pas inquiète.
Tout va bien, tout va bien. On va tous acheter votre livre, Madame Elmoedem, rien que pour les saouler, te dit Pibico. Il y a tout un tas de questions autour de la force d'un livre. À la fois, on dit que ça ne vend pas beaucoup, mais quand même.
Oui, c'est vrai.
Et quand même, c'est central.
Moi, je pense, juste par rapport à ça, David, je pense que c'est très important dans le... Dans le contexte actuel. Oui,
le
c'est très important.
Ça va être, c'est très important. Je te promets que
c'est très important.
Le plan Méni, c'est très important.
C'est vrai qu'on pourrait croire que un livre, je sais pas, vendu à 5000 exemplaires, 6000, 7000, c'est pas grand chose. Et effectivement, malheureusement, dans un contexte médiatique où il y a un rouleau compresseur de Bolloré & Co, ça pèse pas lourd. C'est vrai. Mais c'est une trace qui reste. Il y a l'écume des jours, il y a les commentaires qui se succèdent sur les plateaux télé, etc. Et ça, ça restera pas. À part les buzz, etc., ou des propos très forts, mais honnêtement, ça restera pas. En revanche, un livre, ça reste.
Bien sûr, bien sûr.
Un livre, c'est commandé par les médiathèques. J'espère que la médiathèque du Blanc-Ménil pourra le faire. Un livre, ça se prête. D'ailleurs, là, pour la petite histoire, au Blanc-Ménil, il y a des gens qui soit le cachent dans la rue quand ils l'ont acheté à Aulnay parce qu'il n'est pas diffusé au Blanc-Ménil, ou soit des habitants me disent je vais ostensiblement au café, je pose le livre et je montre qu'il est là. Et ça, c'est des formes de résistance quelque part. Alors, ça peut prêter à sourire, mais à un niveau local, ça dit beaucoup de choses. Et puis, un livre, ça se diffuse, quoi. Et puis surtout, ça reste, c'est une trace qui reste. Et ça, je crois que ça vaut peut-être tous les 6 000, 7 000, 8 000 ventes d'un livre.
Tu n'as pas expliqué ce qu'a fait le maire avec les rues, les parcs, les locaux qui étaient baptisés au nom de résistants communistes, ouais, ou d'anciens maires communistes. Donc il a changé et il a fait la cancel culture avant que ça existe.
Ouais, ouais.
Ah, grosso modo.
C'est un Trump avant l'heure pour moi.
Mais alors il y en a une, j'avoue, ça m'a fait marrer.
Ah, je sais laquelle.
Laquelle ?
Robert Frégossi.
C'est donc une crèche. Robert Frégossi, du nom d'un ancien maire communiste du Blanc-Ménil, rebaptisé, ouais,
en pomme de Rainette et pomme d'api.
C'est
tapis,
même...
tapis rouge. Ouais.
Oui, tapis rouge. Et peut-être que
et
c'est...
Oui, peut-être.
Peut-être, mais c'est extraordinaire.
Non, non, alors, pour cette histoire-là, c'est quand même important. C'est
non,
important.
On rigole, c'est très c'est
alors,
important.
Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a une haine viscérale à l'égard des communistes, qui va au-delà de l'opposition politique. C'est pas juste des gens qui s'opposent à la gauche, une gauche qui s'oppose à la droite. Il y a quelque chose de quand même plus presque clinique, plus profond dans toute cette histoire. Il s'avère que Gérard Le Suisse, là, le conseiller spécial, lui aussi, il a une haine viscérale à l'égard des communistes. Une haine qu'il a pu avoir dans les fonctions qui ont été les siennes dans les Hauts-de-Seine, et puis auprès de Serge Dassault, et qui se retrouve au Blanc-Ménil. Et comment elle s'illustre, cette haine? C'est pas juste rebaptiser, parce que ça, beaucoup de pouvoirs l'ont fait, de pouvoirs locaux.
Bien sûr.
Beaucoup de pouvoirs locaux l'ont fait. Alors là, c'est vrai que ça a une échelle presque industrielle. Mais ce qui va se passer, c'est un effacement de l'histoire, en fait. C'est pas juste, on n'aime pas les communistes et on veut plus les voir. En 2014, ils vont faire une grande commémoration des 70 ans de la libération du Blanc-Ménil. Plutôt une bonne chose, hein. Et donc, il va y avoir une exposition qui va être mise en place par les agents de la ville. Et cette exposition, elle va rendre hommage à un certain nombre de personnalités locales, notamment, de ce qu'ils ont apporté dans la résistance et dans la libération de la ville. Et donc, il va y avoir des mentions biographiques de chacune de ces personnalités. Et il y aura des petites légendes à côté où on va expliquer qu'un tel était communiste, un tel était communiste, etc. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont laisser, cette majorité va laisser l'exposition. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tout simplement enlever la mention communiste de cette grande exposition. Voilà, voilà où on en est, en fait, de cette haine des communistes. Alors, moi, je suis pas communiste, donc, je vais pas dire, je m'en fiche, mais presque, déjà, c'est pas mon sujet, mais mon sujet, c'est quoi? C'est l'effacement de l'histoire collective, en fait. C'est l'effacement de l'histoire commune. Je veux dire, c'est le début du fascisme, ça. N'est-ce pas? Non, est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est le début du fascisme. Et c'est ça qui est inquiétant. Sauf que tout ça passe. Tout ça passe parce que, encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, la division, diviser pour mieux régner, diviser les gens. Il y a des gens au sein même des familles qui vont se retrouver pro-méniens, anti-méniens. Et donc, on va considérer que si tu es communiste, tu ne veux pas que la ville avance. Et c'est comme ça que tout ça va pouvoir se faire, mais au point d'exemple complètement loufoque de cette crèche pomme de Rainette et pomme d'api. Enfin, c'est lunaire, quoi.
C'est lunaire. What ? Dit le chat.
Mais tout est what, en fait, dans cette histoire. Mais vraiment, moi, quand j'ai enquêté au départ, hein, je vous assure que je ne croyais pas les gens. Je ne croyais pas les gens. Le niveau de dinguerie dont on m'a parlé et qui ensuite du coup se retrouve dans l'enquête, je me suis dit mais c'est pas possible. Alors, on est en train de me
il y a 70 personnes qui essaient de te piéger,
me raconter des bobards, quoi. Et en fait non, et au fur et à mesure de l'enquête, je me dis mais c'est pas possible, en fait. Alors, c'est encore pire qu'avant, les limites sont toujours repoussées, quoi.
Il y a l'effacement du temps passé, puis il y a aussi la distorsion du temps présent. Tu parles chapitre 21 de Grand Corps Malade qui doit se produire au Blanc-Ménil, et d'un dénommé Rachid qui est un personnage très attachant,
oui.
Chauffeur de taxi et ancien du MIB. Alors moi, ça m'a beaucoup plu,
ouais.
parce que là, le MIB, mouvement immigration banlieue, ouais, des années 90, qui était vraiment un mouvement très politique, très fort, qui existe toujours d'ailleurs,
ouais,
mais qui est peut-être un peu moins dans la lumière aujourd'hui que d'autres collectifs. Qu'est-ce qui va se passer autour du concert prévu par Grand Corps Malade, ouais, qui veut faire monter sur ouais scène le dénommé Rachid?
Alors, Rachid Taxi, c'est comme ça qu'il est surnommé. Rachid Amgar, de son nom. Effectivement, personne très attachante. C'est quelqu'un qui est engagé dans la ville, hein, qui a assisté à un certain nombre de réunions publiques, qui connaît exactement la situation politique locale. Par ailleurs, c'est un ami de Grand Corps Malade. Et en plus de ça, c'est plus qu'un ami. C'est quelqu'un qui lui a écrit des chansons, etc. Donc, tout à fait logique que Grand Corps Malade lui propose de venir sur scène pour chanter. Ils l'ont d'ailleurs fait dans plein d'autres endroits, y compris d'ailleurs des mairies de droite en région parisienne. Et donc, il lui propose de venir. Sauf que ça ne plaît pas au maire du Blanc-Ménil, Thierry Ménien. Et donc, ils vont demander à la production de Grand Corps Malade de ne pas laisser Rachid Taxi monter sur scène. Alors ils vont protester un défaut d'assurance, etc. La vérité, en fait, c'est que c'est une censure. C'est une censure claire et nette. Alors Grand Corps Malade refuse. Rachid Taxi lui dit non, mais c'est pas grave, tant pis, fais ce concert. Grand Corps Malade est né au Blanc-Ménil. C'est la raison pour laquelle c'était important pour eux de le faire au Blanc-Ménil. Et puis ils ne cèdent pas. Ça, c'est important, en fait, d'avoir des personnes qui ne cèdent pas, qui ne disent pas oui. Parce que on est aussi face à des gens qui ne sont pas en situation de vulnérabilité, qui peuvent dire non. Rachid Taxi, il n'a pas besoin du maire. Et en Grand Corps Malade, encore moins. Et donc, ils vont aller jusqu'au bout en expliquant qu'ils sont dans leur bon droit, qu'il n'y a aucune volonté de politiser la scène, puisque c'était le reproche qui a été fait par Thierry Ménien, qui considérait que Rachid Taxi était un opposant à lui, qu'il allait transformer la scène musicale en scène politique. Et quand bien même, en fait, c'était pas le cas, mais quand bien même. Et donc, ils ne vont pas céder et ils vont trouver un tour de passe-passe, ouais, exactement, un subterfuge pour aller se produire dans un collège, puisque les collèges dans les villes sont les propriétés des conseils départementaux et que le conseil départemental est socialiste.
Voilà, la crèche et l'école primaire, t'en fais ce que t'en veux quand t'es maire, d'une certaine manière, mais le collège et le lycée, bah non, c'est pas toi. Le lycée, c'est la région, le collège, c'est le département. Et voilà, c'est comme ça. Alors, entre autres choses, ils vont appeler la presse pour faire parler de leur histoire. Et je te parle de ça parce que je m'attendais, en Rétienne sur image que tu es, que tu parlerais plus du rôle ou du non-rôle de la presse. Et finalement, il en est très peu question, je trouve, dans ton enquête, dans ton bouquin. Pourquoi ? Parce que c'est un contre-pouvoir qui est définitivement enterré, mort et enterré, qu'il n'y a même pas de sujet. Bon, alors évidemment, tu parles de ces gens-là qui sortent le bouquin de la presse municipale. Bon, ça, c'est dans toutes les villes. Mais tu parles très peu du Parisien, par exemple. Tu parles très peu de la presse locale. Pourquoi ?
Alors, j'en parle à travers l'histoire de Philippe.
Oui.
En fait, il s'avère que la mort et le suicide de Philippe,
ça, c'est très touchant,
est d'abord annoncé par le Parisien.
Voilà.
Pour quelle raison ?
Sans son nom.
Voilà. Alors moi, c'est ça qui m'a choquée.
Bah oui.
Au moment où le nouveau marché de l'eau est lancé, Thierry Ménien va prendre la parole dans le Parisien avec une demi-page où il va apparaître presque tout sourire avec un titre qui est les prix de l'eau vont baisser de 25% au Blanc-Ménil. Bon, évidemment, ouais, ça n'est jamais arrivé. Hein, on le savait, mais on peut le dire, ça n'est jamais arrivé. Et tout en bas, il y a un petit entrefilé, c'est-à-dire un petit article.
Oui.
On nous explique que dans le cadre de ce marché de l'eau,
voilà,
un cadre s'est donné la mort. On comprend qu'il y a des pressions, mais c'est très flou, très opaque. Et surtout, il n'y a pas le nom de Philippe. Alors moi, ça m'a choqué, ça. Et ce qui m'a choqué le plus, je crois, c'est le fait qu'on ne sache rien de la suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de suite. Le Parisien n'a pas fait de suite. Alors, j'ai deux lectures par rapport à ça. La première, d'abord, comme je le disais, je suis choquée, presque indignée, etc. Mais j'ai une deuxième lecture qui est plus contextuelle. C'est que la presse n'a plus les moyens de travailler à l'échelle locale, y compris le Parisien. Malheureusement, il y a eu des coupes budgétaires et moi j'ai des retours de journalistes de la presse quotidienne et régionale un peu partout en France où on m'explique qu'on ne les laisse pas enquêter, on m'explique qu'ils ont des affaires dont ils ont la connaissance, notamment de corruption, et qu'ils sont un peu empêchés. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, le contexte de la presse quotidienne régionale. C'est une presse qui est quand même souvent pieds et mains liés avec les élus. Avec les élus locaux. Et donc ça empêche de sortir des histoires. Ça empêche de suivre un petit entrefilé de quelques lignes pour raconter toute l'instruction, pour raconter à quel point ce pouvoir a sali la mémoire de ce cadre, à quel point ils ont étouffé l'affaire, à quel point ils ont empêché par exemple la famille d'avoir accès à la protection fonctionnelle pour tout simplement prendre en charge tous les frais juridiques des 12 ans d'instruction pour savoir juste tout simplement pour quelle raison leur frère et leur fils s'est donné la mort alors qu'il était en bonne santé, qu'il n'était pas dépressif, que c'était un être sociable, etc. Et malheureusement, cette presse-là, elle n'a plus les moyens de faire ce travail-là. Moi, je le fais parce que j'ai mon travail à côté. Et donc, j'ai cette possibilité. C'est pour ça que je parlais de luxe tout à l'heure et de privilège. C'est 6 ans. 6 ans d'enquête, c'est énorme. Quelle rédaction va laisser son journaliste pouvoir enquêter des années sur une affaire? Ça n'existe plus. Et donc, oui, ça pose la question de quel contre-pouvoir médiatique dans ces villes. Et vous pensez bien que ces élus-là, ils savent ça. Et ils tirent bénéfice aussi. En fait, ils tirent bénéfice de tout, de l'effondrement total, c'est-à-dire de la mise à mal institutionnelle, des services publics à l'abandon qu'ils ont eux-mêmes voté, et de ce délitement de la presse, malheureusement.
Alors, il y a une presse indépendante qui relève le défi, L'Empaillé à tel endroit,
tout à fait.
Tout un tas de journaux, y compris papier.
La Topette à Angers, la revue Far West à Bordeaux,
etc.
Poulpe en Normandie, il y en a plein.
Voilà, ouais. Qui viennent souvent sur France des Terres le lundi matin. Il y a aussi le réseau Médiacité, il y a Mars Actu. Voilà, il y a quand même une presse indépendante, locale,
c'est vrai,
qui fait un travail extrêmement courageux, et qui subit les foudres de procès Bayon et
ainsi
de suite.
Tout à fait. Mais c'est intéressant parce que du coup, là, on a cité des médias partout en France, mais sauf en région parisienne.
Alors, il en existe en région parisienne, mais ils sont écrasés par la force des médias nationaux,
ouais,
qui appartiennent on sait à qui. Alors, justement, le « on sait à qui », c'est-à-dire le fascisme rampant.
Est-ce qu'on peut répondre à ça?
Vas-y.
Avez-vous des retours de lecture d'habitants qui ne respirent plus et qui subissent au Blanc-Mesnil?
Une question de Veuve Chicot.
Ouais, j'ai fait 2 rencontres au Blanc-Mesnil. Alors, il s'avère que ça a été un casse-tête, parce qu'évidemment, les habitants n'ont pas accès aux salles, et moi-même non plus, forcément, pour pouvoir présenter mon travail. Et donc, ça a été toute une histoire pour essayer de trouver juste un endroit où se réunir. Un endroit où on puisse s'entendre. Donc je remercie le gérant de l'hôtel, un hôtel au Blanc-Mesnil, qui nous a accueillis pour pouvoir faire ces 2 rencontres. Et c'était intéressant parce que c'était 2 états d'esprit différents. La première rencontre était très émouvante, parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas parlé depuis des années et qui se sont retrouvés. Il y a des gens qui ont été divisés par ce pouvoir, comme je disais, et qui ont pu se parler. Alors ça a été parfois tendu, hein, mais c'est bien. En fait, il faut que tout ça s'exprime, parce qu'on est dans une ville où les choses ne s'expriment plus. Et donc les gens ont pu parler. Ça a duré 2h30, 3h, je crois. Les gens ont pu parler, se dire les choses, prendre ce livre finalement comme un levier pour tout simplement se reparler, exprimer leurs opinions, leur colère, éventuellement dessiner des lendemains. Et puis la deuxième, et puis c'était très émouvant parce qu'il y avait des témoins de l'enquête qui étaient là, des témoins de l'enquête qui d'ailleurs ont acheté le livre et qui aujourd'hui n'arrivent pas à le lire parce que c'est trop douloureux pour eux. Parce qu'ils ont trop souffert. Parce que c'est pas possible encore aujourd'hui, des années après, de lire leur histoire. Et puis la deuxième rencontre était plus politique. Oui, pardon.
Non, je réponds à Veuve Chicot qui t'a posé la question. La vache, c'est comme aux enterrements.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça ressemblait à ça. Et puis il y avait une deuxième rencontre, une deuxième réunion autour du livre, où là, c'était plus politique. Où là, on sent qu'on approche plus de l'échéance électorale, où la question était de savoir pour quelle raison il n'y a pas eu d'union à gauche, en fait, pour faire corps contre cette droite extrême. Et c'est malheureusement le grand sujet aujourd'hui, c'est cette union qui est là entre communistes, LFI, écologistes, et puis cette liste citoyenne qui malheureusement n'a pas réussi à faire union avec la première liste.
Je n'avais encore jamais vu la jeune femme assise à ma gauche, écris-tu, page 325. Voilà plusieurs mois que j'assiste aux conseils municipaux du Blanc-Mesnil. Les visages des participants me sont désormais familiers, mais celui-ci m'est complètement inconnu. Ce 17 décembre 2020, à quelques heures de vacances de Noël, elle prend place, comme moi, sur les tout premiers sièges du gymnase de l'Aune. Elle est vêtue d'une robe noire, sobre et chic. Mocassin vernis au pied, petit sac Chanel en bandoulière, il n'y a pas de doute, ce jour semble important pour elle. Juste avant le début du conseil, elle discute pendant plusieurs minutes dans une ambiance décontractée avec le directeur de cabinet de Thierry Ménien, Vigé Monani. Les deux semblent bien se connaître. Tout le long du conseil municipal, la jeune femme aux cheveux longs tapote frénétiquement sur son téléphone portable, comme si quelque chose d'important était en train de se jouer. Elle ne tourne jamais le visage, ne prête aucune attention à ce qui se passe autour d'elle, même lorsque pro ou anti-ménien s'agitent dans la salle. La dame est concentrée, voire sur ses gardes. Qui est-elle ?
Une certaine Sarah Knafo. Que tout le monde connaît aujourd'hui, mais à l'époque,
eh ben voilà,
c'était pas le cas. On est le 7 décembre 2020.
17.
Bravo, 17 décembre 2020, bravo Terence, s'il l'avait trouvé. 17 décembre 2020, et effectivement, elle est à ma gauche. Et donc, moi, je ne la connais pas.
C'est et donc... rare. Qu'elle soit à gauche, je veux dire.
Oui, bon, bref. Ouais, bref. Et Thierry Ménien prend la parole et nous présente donc le mémoire. Le mémoire, c'est quoi ? Bah, c'est le vote d'une subvention à une association. Alors, un grand classique, hein, j'ai quasiment fait tous les conseils municipaux du Blanc-Mesnil. Je crois qu'à chacun des conseils municipaux, il y a le vote d'une subvention. C'est un grand classique. Sauf que là, il y a deux sujets quand même. Le premier, c'est que l'association en question est inconnue au bataillon. Inconnue au bataillon tout court, mais inconnue au Blanc-Mesnil. Elle s'appelle Alexandre et Aristote. C'est voilà. Le nom de l'association. Donc personne ne la connaît. On est tous là en train de se regarder. On est une trentaine à assister au conseil municipal. Tout le monde se connaît. Tout le monde se dit, mais quelle est cette association ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bah, c'est le montant. 20 000 euros.
20 000 euros.
C'est du jamais vu. Enfin, vraiment. Pour titre de comparaison, par exemple, le Secours Populaire, qui on sait quand même est une association d'utilité publique et générale, c'est 1500 euros de subvention à l'année. 20 000 euros, 1500, en sachant que dans son mémoire, le Thierry Ménien, quand il prend la parole pour présenter l'association, il nous explique que potentiellement, les 20 000 euros peuvent être renouvelables. Donc éventuellement, 20 000 euros chaque année. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que cette association Alexandre et Aristote va permettre de démocratiser l'accès à la lecture des jeunes du Blanc-Mesnil.
Alors on est bien d'accord, hein, il s'agit de la même personne, en tout cas de la même ville où on publie un contre-livre à ton livre qu'on ne peut pas trouver. Mais ces gens-là,
oui.
Il y a 5 ans, ce qu'ils voulaient, c'était démocratiser la lecture.
C'est intéressant.
C'est quand même c'est très important.
Et très important.
Et c'est très intéressant. Alors raconte ce qu'est cette association.
Alors, officiellement, elle est présentée par le maire, Thierry Ménien, comme une association qui va permettre de faciliter l'accès à la lecture des jeunes du Blanc-Mesnil, mais des gens tout court. Comment ? Par le biais d'ateliers de lecture dans les lycées et par un site internet qui, soi-disant, est ludique avec un algorithme où, en fait, on va répondre à quelques questions ludique, et on va nous proposer des lectures. Bon, il s'avère que moi, j'ai fait le test tout le long de l'enquête. À chaque fois, on me proposait les lectures d'Éric Zemmour, par exemple, ou d'autres très, très à droite. Et puis, on nous dit donc qu'il va y avoir ces fameux ateliers de lecture.
Oh, c'est mieux que ça. Page 333, tu nous expliques que certains items du questionnaire étaient illustrés de photos d'Éric Zemmour.
Tout à fait.
C'est quand même extraordinaire.
Tout à fait.
C'est fabuleux.
Tout à fait.
Donc, ils n'ont peur de rien.
Ah non, ils n'ont pas de limite. Et donc, du coup, évidemment, donc, la subvention est votée, 20 000 euros. La majorité vote comme un seul homme, comme d'habitude. L'opposition, elle, s'abstient. Elle explique à raison que d'abord, un, Alexandre et Aristote n'est pas une association locale. Deux, elle est inconnue. Trois, on n'a aucun bilan d'activité puisque l'association, la subvention est votée en décembre 2020 et l'association est née en octobre 2020. Je dirais, elle vient d'être créée, quoi. Bon, bref, c'est voté. Là, Sarah Knafo, que je ne connais pas encore à l'époque, se lève et va se diriger vers Thierry Ménien, qui l'a fait applaudir. Et qui va voir le fameux Vigé Monani, qui est aujourd'hui comme je le disais, secrétaire général adjoint de son groupe au Parlement européen avec les néo-nazis de l'AFD.
Et qui était à l'époque donc le directeur de cabinet.
Absolument, et qui est proche de Sarah Knafo. Et donc, bah, évidemment, quand je vois tout ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, pour quelle raison on va filer 20 000 balles à une association qui est inconnue de la ville, etc. Et donc, évidemment, je mène l'enquête. Est-ce que les ateliers de lecture ont été mis en place ? Quel est ce site internet que soi-disant ces 20 000 euros vont améliorer, etc. Bon, il s'avère que les lycées du Blanc-Mesnil n'ont jamais entendu parler de cette association. Aucun atelier de lecture n'a été fait. Par ailleurs, le site internet qui devait être amélioré par la subvention n'a jamais été amélioré. Il a été en version bêta tout le long et il a été fermé encore récemment. Et donc, du coup, je m'interroge. Ces 20 000 euros, ils ont servi à quoi ? Alors moi, je pose la question au pouvoir local, au maire adjoint à la culture. J'ai pas de réponse. J'appelle Sarah Knafo, qui me raccroche au nez. J'envoie des mails en leur expliquant, mais donnez-moi accès.
Oh, c'est rigolo ce geste.
Oui, parce que maintenant, on ne fait plus ça.
Là, c'est vrai, ça fait quand même plus de 20 ans que ça n'existe plus.
C'est vrai, ça.
Ah, attention, là, t'as basculé dans une autre zone. Moi, ça me parle, fais attention.
Oh, j'aurais bien, il faut que je fasse gaffe.
Et
oui, c'est ce gars, les SMS de harcèlement sexuel. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai publié sur mes réseaux sociaux qui font partie de cette enquête. C'est effectivement ce monsieur qui envoie des messages à caractère sexuel.
Vijay
Monani, à ses collaboratrices qui sont sous sa responsabilité. J'ai publié un message, mais en fait, dans l'enquête, il y en a plus. Bref, et donc, j'envoie des mails à l'équipe de bénévoles de l'association Alexandria Rissot. Il s'avère que, par exemple, dans l'équipe de bénévoles, il y a quelqu'un qu'on connaît très bien aujourd'hui qui s'appelle Stanislas Rigaud. Stanislas Rigaud, c'est qui ? C'est celui qui a fondé Génération Z, qui est en fait le parti jeune d'Éric Zemmour. Et puis, je leur demande d'avoir accès au compte bancaire de l'association pour savoir comment l'argent a été utilisé. On m'envoie des pseudo-captures d'écran avec des prélèvements de 6 euros, 7 euros. Je leur ai dit, mais soyez sérieux, enfin, envoyez vraiment les vraies informations, quoi. Bref, je n'ai accès à rien. Tout récemment, l'Obs fait un papier sur le chapitre de mon livre autour de ces 20 000 euros et contacte la mairie du Blanc-Mesnil en leur demandant une réaction. Et la mairie du Blanc-Mesnil va leur répondre, ce qu'ils n'avaient pas fait avec moi, ils ont de la chance, et ils vont expliquer à la mairie du Blanc-Mesnil que Sarah Knafo a remboursé les 20 000 euros. Ah bah, surprise quand même. Ça aurait été cool qu'on me le dise, je ne le savais pas. Et donc, soi-disant, elle a remboursé les 20 000 euros au moment de la dissolution de l'association. Alors, si elle a remboursé les 20 000 euros, c'est que finalement, rien n'a été fait. D'accord ? On est d'accord ?
Sinon, ils n'ont pas été dépensés, oui.
Ils n'ont pas été. Non, mais ça veut dire que si elle a remboursé, c'est que les actions qui auraient dû être faites n'ont pas été faites. Donc ça confirme ce que je dis. Moi, je dis que cette association est bidon. C'est une association bidon. Et puis, on nous explique que ça a été fait au moment de la dissolution de l'association, mais on ne nous dit pas quand a eu la dissolution. Alors c'est très intéressant. Du coup, moi, j'ai été me renseigner. L'association a été dissoute en décembre 2025. Pourquoi décembre 2025 ? Il y a deux explications. La première, c'est que moi, mes questions, je les envoie fin novembre et qu'on me répond début décembre, mes questions à la mairie. Donc ça correspond à ce moment-là. Puis la deuxième explication, qui est sûrement la plus importante, c'est que vous le savez, Sarah Knafo se présente à la mairie de Paris quelques jours après avoir dissoute...
La mairie de... Nom de ville.
La mairie de Paris. Ah oui, c'est vrai. Merde, putain.
Alors, délire. Ah, vous avez tous suivi, donc il y a, je crois que c'est à Versailles, c'est à Versailles, un tract avec la ribambelle de candidats de Reconquête,
ouais.
Et à la place de Versailles, il y a écrit
« Nom de ville ». Donc elle se présente à la « Nom de ville » de Paris, et donc ça correspond à ce moment-là, quoi. Et pourquoi c'est important ce timing ? À la fois la question du timing de la dissolution de l'association, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle va soi-disant rembourser, d'ailleurs on n'a pas la preuve du remboursement, hein. Des journalistes ont demandé à avoir accès à la preuve. On a un mail qui dit qu'elle a remboursé, mais c'est tout ce qu'on a. On n'a pas le quitus qui dit que vraiment l'argent est arrivé dans le compte de la ville du Blanc-Mesnil. Donc, on présume que tout ça a été fait pour que Sarah Knafo puisse apparaître toute blanche face aux médias au moment où elle va présenter sa candidature à la mairie de Paris et pour dire, regardez, il n'y a plus de problème, j'ai tout soldé. Bon, il y a quand même un sujet. En décembre 2020, quand elle obtient la subvention de 20 000 euros à la mairie du Blanc-Mesnil, c'est pas neutre comme timing politique. décembre 2020, d'ailleurs ce que je raconte dans le livre, c'est qu'elle a fait des pieds et des mains auprès de son proche, Vijay Monani, directeur de cabinet de la ville du Blanc-Mesnil, pour que elle ait un rendez-vous avec le maire et pour que le vote de la subvention se passe très très vite. Il y a une urgence, visiblement, c'est très urgent que les jeunes du Blanc-Mesnil aient accès à la lecture en décembre 2020. Pourquoi c'est important? Parce qu'en janvier 2021, commence la campagne électorale de Sarah Knafo pour son compagnon Éric Zemmour à la campagne présidentielle de 2022. Parce qu'on le sait, et c'est pas moi qui le dis, ce sont ses lieutenants qui expliquent que les premiers rendez-vous ont eu lieu dès janvier 2021, c'est-à-dire quelques jours après le vote de la subvention. On sait par ailleurs que la subvention est arrivée dans les poches de l'association très très vite. Et aussi, les rendez-vous de la campagne organisée par Knafo pour son compagnon Éric Zemmour se passent dans son appartement parisien, qui est l'adresse de domiciliation d'Alexandre et Aristote. Et donc ma thèse, c'est, est-ce que cet argent n'a pas servi à financer le début de la campagne présidentielle d'Éric Zemmour pour l'élection 2022? Ce serait quand même très grave, parce que au-delà d'un éventuel détournement de fonds publics, ce qui est quand même déjà assez grave, mais en fait, éventuellement, les habitants du Blanc-Mesnil, qui sont pour beaucoup d'origine immigrée, auraient potentiellement financé la campagne électorale de quelqu'un qui vomit la haine des étrangers tous les jours à la télé, qui en a fait un programme politique, puisqu'il promeut la remigration, c'est-à-dire l'expulsion de ces gens-là. Enfin, je veux dire, ce serait... je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie de cette histoire.
Est-ce que c'est à vomir, dit le chat. Est-ce que tu as des... On va terminer l'entretien. Est-ce que tu as des rencontres autour du livre? Alors, donc, peut-être pas au Blanc-Mesnil, mais ailleurs, dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent. Est-ce qu'on peut venir te saluer, discuter avec toi?
Avec grand plaisir. Alors, je serai au Rincy ce soir, Rincy, le Neuilly du 93. C'est une ville importante aussi parce que le directeur de cabinet adjoint, Nicolas Rondepierre, qui visiblement lui aussi a un problème avec les femmes et parle des femmes avec des mots extrêmement humiliants, c'est ce que je raconte dans l'enquête, est candidat à la mairie du Rincy dans le cadre des élections municipales. Donc je serai à la librairie Folie d'Encre au Rincy ce soir à 19h et je serai à la librairie Libertalia, chère à mon cœur, à Montreuil.
Ah bah ouais.
À Montreuil, vendredi. Donc ce vendredi-là,
chez
à
Nicolas
19h.
Et Charlotte.
Exactement.
Super. Et leur équipe. Super.
Exactement.
Deux questions rituelles pour terminer. D'abord, je rappelle que depuis quelques jours, nous avons un nouveau site internet, auposte.media, sur lequel vous pouvez vous abonner. Donc, vous pouvez toujours faire des dons et vous pouvez vous abonner. Vous avez tout ça sur auposte.media et c'est extrêmement important parce que...
Ah ouais, toi aussi, tu vois, c'est extrêmement important.
Ah bah c'est, je suis contaminé.
Ah ouais, là.
Je suis easy. Deux petites questions rapidos.
Avec alors, plaisir.
Est-ce que tu as un conseil culturel, livre, disque, film, téléphone à nous livrer, à nous donner? Ça peut être en rapport avec ton travail ou tout à fait autre chose. Ça peut être un vieux machin comme ça. Ça peut être quelque chose qui vient de sortir ou qui va sortir.
Voilà. C'est difficile. Il y a tellement de choses et je vais me faire des mauvais copains qui vont me dire « Mais pourquoi t'as pas parlé de mon livre? Pourquoi t'as pas parlé de mon travail ?» Non, mais je pense qu'on a tous besoin de savoir à qui on a affaire avec cette extrême droite qui, malheureusement, peut arriver au pouvoir en 2027, je l'espère pas. Mais un conseil, là, parce que c'est un livre que j'ai lu récemment, qui est sorti en version poche, et ça c'est important, les versions poche, c'est le livre de Nicolas Massol et de Marie-Lou Magal.
Bien connu de nos services.
Exactement, sur la génération Bardella, qui est accessible en version poche. Et pour tout comprendre, en fait, de qui sont ces gens et dans quel réseau ils opèrent depuis plusieurs années.
Et enfin, dernière question, il est 10h27. Qu'avons-nous fait pendant 1h27, Nassira El-Mouadem?
Je crois qu'on a parlé d'un angle mort, en fait. C'est ça qui me fascine dans toute cette histoire, c'est que moi, j'ai beaucoup d'éléments, beaucoup de matériel dans ce livre. C'est quand même 504 pages. Il s'avère que c'était 700 au départ. Et voilà, il a fallu élaguer.
Ah ouais.
Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est fou quand même que Stock ait accepté de publier un pavé comme ça sur une illustration d'une ville qui, certes, illustre une dimension plus nationale, mais quand même. Moi, ce qui me fascine, c'est effectivement cet angle mort médiatique des villes. Je veux dire, on est dans une échéance électorale importante, les élections municipales, dont on nous parle beaucoup sur les antennes. On peut pas dire qu'on n'en parle pas, mais en fait, on nous en parle mal, moi, je trouve. Alors, c'est vrai que c'est difficile de décliner à l'infini les programmes politiques de 35 000 communes. C'est pas le sujet. Mais en revanche, on passe quand même à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, c'est quoi? C'est en fait... et on reboucle avec ce que je disais au début, et c'est très bien, c'est la surpuissance des maires, l'absence de contre-pouvoir. Par exemple, l'échelon local, on ne peut pas renverser les maires. On ne peut pas faire de motion de censure pour renverser l'exécutif, ce qu'on peut faire évidemment à l'échelle nationale, et ce qui existe aussi dans d'autres modèles. On devrait pouvoir faire ça. Et on devrait pouvoir interroger, en fait, le côté institutionnel des collectivités territoriales. Le côté presque antidémocratique, hein. Parce que, en fait, une fois qu'on a élu une majorité, il se passe plus rien. Alors, évidemment, on est tous responsables d'aller aux conseils municipaux, de se renseigner, etc. Mais quel est le fonctionnement institutionnel qui, en fait, empêche quelque part les citoyens de prendre part à l'exercice du pouvoir tout le long du mandat? Il s'avère que là, on va en avoir pour 7 ans. 7 ans, c'est énorme. Hein. Là, on vote pour des maires pour 7 ans de pouvoir et non pas pour 6 ans. Et donc, en fait, on a parlé de ça, mais on a surtout parlé, je crois, de cet angle mort-là. Et j'espère que ce livre-là y contribue.
Merci beaucoup. Bravo.
Merci.
Pour ta ténacité.
Merci beaucoup, David. Et merci pour l'invitation. Et merci aux... Comment on appelle ça, les abonnés au poste? Au poste, il y a un...
Les
opostiens, ok. Et ben voilà, merci à vous.
Les amis, nous sommes sur Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est au poste, auposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous au poste.
J'encourage, faites un don à au poste. Ah non, c'est là la caméra.
Abonnez-vous au poste.
Et faites des dons à au poste. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à au poste. Il faut donner
de
l'argent
à pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, abonnez-vous au poste.fr. Abonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer les récits, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir au poste.
Abonnez-vous.
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à au poste et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous.
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Au poste.fr, y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là, Bompard soutient au poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à au poste, faut pas que c'est ça qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, auposte.fr.
Bravo. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr.